En gros, je me demandais s'il y avait un modèle espagnol. Alors, la conférence va être vite faite. Il n'y a pas de modèle espagnol. C'est une question que je me suis posée parce que il y a ce séminaire et puis un colloque dans peu de temps, dans 15 jours. Je pensais que j'arriverais à trouver un modèle militaire espagnol. Voilà. Et non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de modèle militaire espagnol. Il reste pour les gens. Alors, évidemment, Machiavel, parce que Machiavel va être quand même le creuset des autres textes, et en particulier tous les traités militaires. Et voilà. Et incroyablement, il n'y a pas de modèle militaire espagnol, et il y a même une sous-estimation très 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 nette de l'importance de ce qu'amènent militairement les Espagnols en Italie, au moment même où les Espagnols sont en train de montrer que, voilà, et ils vont le montrer pendant pas mal de temps, qu'ils sont meilleurs que les autres militairement. Et qu'ils sont meilleurs que les autres militairement, parce qu'ils ont une autre façon de combattre. Et ça, donc, en gros, c'est ce mystère-là que j'essaye d'élucider aujourd'hui avec vous, en étant extrêmement content qu'il y ait beaucoup d'entre vous qui connaissent bien les auteurs espagnols de cette époque, etc. J'espère que vous allez m'éclairer sur un certain nombre de choses. Donc voilà. Donc on a une période où les Espagnols, d'abord évidemment avec Gonzalo de Cordoue, donc comme capitaine, première fois en 1495 pour soutenir les Aragons de Naples, mais la deuxième fois, pas pour les soutenir, mais pour leur piquer la moitié du royaume. Et ensuite, donc, en 1501, 1503, de nouveau avec Gonzalo de Cordoue, après l'accord avec Louis XII, la réalité, c'est qu'ils voilà, prennent la moitié et après, ils prennent le reste aux Français. Voilà. Ils battent les Suisses. Et ça se termine, comme vous le savez, par deux grandes victoires espagnoles, alors qui sont la Bicoque en 1522 et Pavie en 1525. Dont je parlerai très rapidement parce que pour le texte clé qui m'intéresse, à savoir les textes clés qui m'intéressent, à savoir l'analyse de Machiavel, c'est pas dedans parce que l'art de la guerre paraît en août 1521 et donc forcément il n'y a pas la Bicoque, il y a encore moins Pavie, voilà. Et on n'a pas de traces dans les lettres d'après 1523 ni après 1525. Vous savez qu'il meurt en 1527, Machiavel. Ouais. Et dans les autres, c'est-à-dire essentiellement Francesco Guicciardini et Paolo Giovio, hein, Paul Jove et Guicciardin, il y a des descriptions des batailles qui montrent, qui comprennent un certain nombre de choses sur la façon de combattre des Espagnols, mais il n'y a pas de théorisation. Le seul qui fait la théorisation, c'est Machiavel, et il ne voit pas du tout, il continue à voir. Alors, l'autre chose intéressante, c'est qu'en gros, les Espagnols que je connais, je n'en connais pas tant que ça, les Espagnols de la fin du premier tiers du XVIe siècle, visiblement, ils ne voient pas non plus en quoi, eux, ils sont si bons que ça. C'est assez étonnant, mais c'est assez net. Alors, vous me direz si c'est vrai ou pas, mais je pense à un texte de 1536 qui est le Tratado de Re Militari de Diego de Salazar, qui est en fait une traduction de Machiavel, hein, qui est une traduction de l'art de la guerre, en tout cas une adaptation très proche, on va dire, hein, mais où les interlocuteurs sont Gonzalo de Cordoue qui parle avec un duc. Il redit les mêmes choses que Machiavel, sauf un ou deux points que je vous dirai après, hein, et qui ne sont pas de peu d'importance, mais voilà. Mais en gros, il traduit l'art de la guerre, il y a 7 livres, etc. Ça suit l'argumentation de Machiavel, et y compris quand il parle des batailles espagnoles, il y a assez peu de références aux batailles espagnoles dans l'art de la guerre de Machiavel. Ce Diego de Salazar reprend l'analyse qu'a fait Machiavel. Donc, voilà. Et voilà, bon, bref. Donc, il y a les Suisses comme une version encore à peu près convenable, mais évidemment, le vrai modèle, ça reste les Romains. Et le vrai modèle, ça reste les Romains. Et ça reste les Romains dans, en gros, la série des traités italiens. Là, je connais que 2 ou 3 traités espagnols, dans la série des traités italiens de la fin du siècle, de la fin du XVIe siècle. Voilà. Alors, donc, d'où vient cette non-vision? Enfin, c'est ça la question que je me pose. Pas dire aveuglement, c'est peut-être un peu trop, mais d'où vient cette non-prise en considération de la façon réelle de combattre des Espagnols et de leur réussite incontestable? C'est-à-dire que, bon, dire en 21, c'est pas encore sûr, les Français, machin, etc., ils peuvent encore être là, d'accord, oui, c'est vrai. Mais enfin, malgré tout, ils ont pris tout le royaume de Naples, chaque fois qu'on les met en face d'une armée même puissante comme à Ravenne. Ils se débrouillent quand même plutôt bien, hein, ils se débrouillent quand même plutôt bien. Donc comment cela se fait-il? Première partie, on va faire l'état des lieux sur le royaume de Naples, les guerres du royaume de Naples. Ensuite, on fera un état des lieux sur Ravenne, et ensuite sur la bataille de Ravenne et ce qu'on en tire, bataille du 11 avril 1512, hein, voilà, entre des troupes françaises et des troupes espagnoles, mais avec les guillemets, c'est-à-dire que chacun amène d'autres gens que des gens de sa nation. Hein, ouais. Et puis ensuite, donc vous avez vu la troisième partie, c'est point de vue donc de Guicciardini et Machiavel sur la milice espagnole. Et là, c'est là que j'essaierai à comprendre pourquoi ils voient pas et qu'est-ce qu'ils voient pas. Voilà. Alors pour ce qui est de ma connaissance. De la façon de combattre des Espagnols. Voilà, j'ai lu quelques textes espagnols, et puis j'ai lu un livre que les spécialistes de l'histoire militaire espagnole connaissent, qui est fait par un Français. Donc, plus gros livre, et celui-là, il est gros et lourd, et ça, qui s'appelle donc, René Quatrefages. Hein, voilà, bon, évidemment, vous le connaissez, donc il y a d'autres livres, El Tercio espagnol, etc. Celui qui fait en gros voilà, machin, où il met les textes, les ordonnances, etc. C'est celui-là, c'est-à-dire La révolution militaire moderne, El Crisol espagnol. Avec un point de référence. Je n'ai pas trouvé, j'ai cherché un peu, j'ai trouvé d'autres choses sur la ordonnance militaire, machin, bidule. Il me semble que celui-là fait un peu le point de façon assez convaincante, et surtout par un travail d'archives exceptionnel. Voilà. Après, le mec à l'UMP, c'est son problème, quoi. Je veux dire, bon, ça n'entre pas en jeu dans l'appréciation de son travail qui me paraît remarquable. Voilà. Donc voilà. Alors, les guerres du royaume de Naples. Donc, si on balaye rapidement les indications là, qu'on a dans les textes, hein, on voit qu'en gros, ce qui est tout de suite repéré, c'est qu'ils ont des bons capitaines, ces Espagnols. Hein. Vous voyez là, alors, les premiers textes, ces deux premiers textes, c'est deux extraits de lettres. LCLG, ça veut dire Lettere commissarie scritte di governo. Hein, c'est 7 volumes de la nouvelle édition des œuvres de Machiavel dans l'édition nationale publiée par Salerne, en fait c'est Jean-Jacques Marchand qui a fait cette édition-là. Et donc ça, c'est des lettres. Il est à Rome à ce moment-là, et donc il a des renseignements. Il est à Rome pour voir qui va être élu comme pape, quand même. Et il reçoit tous les jours des informations sur ce qui se passe. Ce qui se passe dans le sud, et il les écrit à la Signoria, enfin, en l'occurrence, il n'est pas à la Signoria, mais au 10, c'est-à-dire bon, au gouvernement, cette partie du gouvernement florentin qui s'occupe des questions extérieures de Florence et de la guerre, hein, qui évidemment après tourne. Donc 1503. Alors, les éléments, c'est les Espagnols sont inférieurs en force, hein. Gli spagnoli per essere inferiori di forza non possono comparire a giornata, hein, peuvent pas engager la bataille avec les Français. Les Français sont plus nombreux, etc. Ils jouent au chat et à la souris avec les Français, etc. Dans le paragraphe 31, dire solo questo, je vous dirais seulement cela qu'on dit un peu toujours après avoir considéré l'état des choses, c'est que du côté des Français, il y a plus d'argent et des soldats meilleurs, enfin des gens, sous-entendu des gens d'armes, des combattants, des soldats meilleurs. Et du côté des Espagnols, est più governo e più fortuna. Fortuna, on comprend. Mais c'est important que ça apparaisse tout de suite parce que ça va être un des trucs, au fond, ils ont gagné, mais ils ont eu du bol, quoi. C'est-à-dire que les Français étaient plus forts qu'eux, meilleurs qu'eux, ils avaient plus d'argent, etc. Et eux, ils ont eu de la chance. Et ça va être une des lignes d'interprétation, c'est évidemment une ligne à deux balles. Là-bas. Parce que c'est bon, à un moment donné, t'as pas de la chance tout le temps. Enfin, bon, ouais. Mais il y a un deuxième élément qui est plus intéressant et qui, là aussi, va être très présent, hein, et qui est présent dans la plupart des textes, et ils ont un très bon général. Ils ont pu gouverner. Ceux qui les gouvernent, ceux qui les dirigent, ceux qui les commandent sont meilleurs. Et ça va être un élément présent, hein, qui prend en compte le caractère, il faut bien le dire, exceptionnel du point de vue de l'inventivité tactique sur le terrain de celui qui sera nommé par la foule napolitaine Gran Capitano, hein, voilà, Gonzalve de Cordoue. Une autre chose importante dans la deuxième citation, importante parce que pour Machiavel c'est important ça, il relate une mutinerie des troupes espagnoles, hein, voilà, donc là on note simplement, on va y revenir quand on fera l'analyse, parce qu'il a ça en tête quand il va écrire des textes théoriques sur les Espagnols, il a ça en tête. C'est-à-dire, ils se sont mutinés. Hein, ils n'avaient pas l'argent, etc. Ils se sont mutinés. Si vous connaissez les petites histoires, voilà, un soldat qui est un basque et qui lui dit si t'as pas d'argent pour nous payer, t'as qu'à mettre tes filles au bordel. Vous connaissez, non, vous connaissez pas l'histoire. Bon, et il répond voilà, il fait semblant, ça le fait rire, mais jaune. t'as pas vu comme elles sont vilaines, mes filles. Le lendemain, le mec est pendu. Évidemment. Donc, ouais, ça les calme un peu, les autres. Mais bon, voilà. Alors, quand il tire la conclusion de ça, donc, on était en 1503, on est maintenant en 1520. Le bouquin est publié en 1521. Donc, quand il écrit en 1521 l'art de la guerre, très peu de choses sur cette période-là, qui connaît de près, parce que. Je vous ai cité debout, mais il y a des tas de lettres. Pendant tout le temps où il est à Rome, il envoie des indications au Diet qui est à la seigneurie. Qu'est-ce qu'il dit ? Trois lignes. Hein. Si t'es pas trop fort, etc., et c'est en particulier si ta cavalerie est inférieure, mets ton armée parmi les vignes, les vignobles et les arbres et... d'autres choses qui gênent l'avancée des chevaux, comme firent en notre temps les Espagnols quand ils l'emportèrent sur les Français ou quand ils vainquirent les Français dans le royaume à Cerignola, hein, bataille de la Cerignola, dont on va reparler un tout petit peu après avec un passage de Francesco Guicciardini. Mais il ne tire pas de leçon de ça, il dit simplement ils sont moins forts, mais plus gouvernent, donc ils sont capables de prendre une décision tactique qui leur permet de l'emporter quand même. Hein. C'est le fameux fossé de la Tchirignan. Alors, deuxième truc qui est là totalement impressionnant, hein, dans cette analyse de l'incapacité à voir la nouveauté tactique et militaire, c'est ce qu'il dit sur la déroute du Garigliano. Hein. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit cette phrase invraisemblable. Moi, je suis très machiavélien, je veux dire que je passe mon temps à écrire des trucs pour dire Machiavel a raison, les autres n'ont rien compris, il n'y a que lui qui a compris, etc. Donc, si moi, je vous dis, là, vraiment, je trouve ça hallucinant, c'est que franchement, je trouve ça hallucinant. C'est-à-dire que voilà, je passe mon temps à expliquer, non, mais pas du tout. Là, on dit que, mais non, c'est pas du tout vrai, il a très bien compris, etc. Mais là, non. Hein. Là, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, rappelez-vous que les Français, en 1503, ont été défaits sur le Garigliano par l'hiver et pas par les Espagnols. Alors, c'est bien connu que les Espagnols vivent dans des pays très froids et donc ils tiennent très bien quand il fait très froid, qu'il y a de la boue et tout ça, alors que les Français, non, surtout les Normands. Donc, ouais, là, c'est clair. Ouais. Donc, il dit, ils ont été battus par l'hiver et pas par les Espagnols. On passe à un texte écrit beaucoup plus tardivement, puisque c'est l'histoire d'Italie d'Icharnin. C'est écrit entre 1537 et 1540, pas tout à fait terminé Donc il y a des passages voilà, où on est à la version N-1, hein, mais en gros, parce qu'il meurt en 1540, et donc il n'a pas le temps de tout finir, c'est un truc gigantesque. Voilà, ça fait 3 millions de signes. Voilà, bon, voilà, bon. Il écrit donc entre 1537 et 1540, mais toute une série de choses sont déjà présentes dès ses textes de jeunesse. Par exemple, son appréciation de Consalvo Hernandez di Casa d'Aguilar, di patria cordovese, uomo di molto valore ed esercitato lungamente nelle guerre di Granata. Voilà. Et lui, ça, il dit déjà Capitano Valentissimo dans les Storie Fiorentine qu'il écrit en 1508. Hein. Certes, il repère, il le redit là, mais il en est déjà persuadé 30 ans avant. Ouais. Et là, il y a tout un passage que vous lirez là sur. On aurait pu croire que c'est les Espagnols, hein, la jactance espagnole qui l'a appelé comme ça, mais en fait. Tout le monde a bien dû se rendre compte qu'en effet, c'était le grand capitaine. Donc, hein, cette idée du governo revient, l'idée du capitaine revient. Alors, là, il parle de la toute première expédition, hein, celle de 1495, et là, il dit, là, il n'y a pas de doute, les Espagnols étaient des troupes nouvelles avec peu d'expérience de la guerre, mais... Néanmoins, si on combattit pendant un long espace de temps férocement, parce que la vertu et l'autorité des capitaines, qui ne manquaient d'aucun des devoirs qui leur revenaient, soutenaient hein, tous ceux, donc les soldats, qui, pour tous les autres aspects, étaient inférieurs. Donc, hein, cet aspect-là est vu, mais voilà. Alors, là, c'est vrai, on sait, sur le corps expéditionnaire de 1495, c'est des jeunes soldats, etc. Ils ne sont pas encore entraînés. Ils vont devenir bons après. Et la Chirignola, hein, toujours le même Guicciardini, la Chirignola, qu'est-ce qu'ils ont fait? Là, pareil, normalement, les Français sont plus forts. Hein, les Français, ils font comme font toujours les Français, ils attaquent comme des bêtes, là, clac, les chevaux, machin, c'est des chars d'assaut, machin, ils avancent et tout. Manque de bol, les Espagnols ont fait un petit fossé. Voilà, ils ont fait un petit fossé, ils n'arrivent pas à passer. Et l'autre truc qu'il dit, là, mais sans... Évidemment, ce n'est pas son propos de tirer les leçons de ça. C'est que, comme ils n'arrivent pas à franchir le fossé, ils se font décimer, et en particulier le chef... Le commandant français, le duc de Nemours, est tué, mais pas seulement lui, il y a 3000 morts, alors qu'eux ont pratiquement aucun mort en face. Pas les arcabuceros espagnols, les spingarderos espagnols. Voilà. Il le dit très clairement, hein, il leur dit très clairement, voilà, les scoppi, hein, les scoppietti, cade percorso d'uno scoppio. Voilà. Quant au Garigliano, donc c'est la citation suivante. Il introduit quelque chose, mais qui explique pas plus. Donc pourquoi ils ont perdu hein. Ils ont gagné virtu de leur côté, mais faiblesse, désordre. Et ça c'est un terme qui va revenir très souvent pour qualifier les Français et donc d'une certaine façon pour occulter la question de la façon de combattre des Espagnols, les désordres. Des Français. Hein. Donc, la rotta che ebbe l'esercito del re di Francia, causée non moins par leur propre désordre que par la vertu des ennemis. Voilà. Alors, après, il fait une analyse. L'analyse qu'il fait, c'est discorde et poco governo. Hein. Donc, vous voyez, là, il y a des couples interprétatifs qui se mettent en place, le governo des Espagnols, le poco governo. Hein, le mauvais commandement des capitaines français et la dureté des temps, la sprezza dei tempi, l'âpreté des temps. Il est obligé de faire un truc qui est de dire les Français et les Suisses ne sont pas aussi capables que les Espagnols de tolérer dans leur cœur, dans leur esprit, quand l'un est mort, les difficultés de la longueur des choses et ils ne sont pas capables de tolérer avec le corps les incommodités et les efforts. Et puis, deux autres choses qui viennent développer l'idée des désordres chez les Français. Donc, ils restent trop longtemps à Rome, et donc l'hiver vient, etc. Machin. En plus, Gonzalve réussit à récupérer avec lui des troupes italiennes supplémentaires. Il avait les Colonna, il arrive à avoir aussi les Orsini, il faut dire que c'était balèze. Hein. Parce qu'il arrivait à mettre dans la même armée les Orsini et les Colonna, il fallait quand même que le mec soit effectivement un très grand capitaine. Quoi. Très grand capitaine. Et deuxième raison qui renforce cette idée des désordres chez les Français, l'avidité, l'avaritia des commissaires royaux, hein, qui gardaient les sous au lieu de les donner pour les soldats. Ouais. Alors, Paolo Giovio, pour le premier séminaire, la première campagne, celle de 1495, vous voyez que c'est assez net qu'il dit pratiquement mot à mot la même chose que Guichardin. Hein. On a vu que les chevaliers, les cavaliers espagnols face aux hommes d'armes français, et l'infanterie espagnole et sicilienne face aux Suisses ne peuvent pas être comparés ni en qualité d'armes, ni en constance de leur façon de se mettre en ordre. Des sources semblables, hein, parce qu'ils n'ont pas pu se lire, quoi. Ils n'ont pas pu lire leurs textes finaux. Quoi. Ça veut dire que c'est une vraie idée générale chez les Italiens. C'est ça que ça veut dire. La première édition de l'histoire d'Italie, elle est de 1561. Alors après, voilà, ils se connaissent, ils se sont vus, voilà. Est-ce qu'ils ont échangé des choses? On ne sait pas. La bataille de Cerignola, racontée par Paolo Giovio, hein, très semblable aussi, avec cette intervention de Fabrizio Colonna. J'ai entendu dire, parce qu'une des particularités de l'histoire de Paolo Giovio, c'est qu'il y a beaucoup d'histoires orales, enfin, hein, et beaucoup de gens où il dit « j'ai parlé avec un tel, il m'a dit que… » J'ai entendu dire au seigneur Fabrizio Colonna, quand il racontait ce qui s'était passé dans cette bataille, que la victoire de cette journée n'avait pas été dans d'autres choses d'importance, soit ni l'industrie des soldats, ni la valeur du capitaine général, mais seulement dans l'espace d'un petit remblai, d'une piccolo argine, et d'une fosse très, très basse. Donc cette idée... Hein, qu'est-ce qu'on en tire? Il y a une phrase de hein, alors on a repéré quelques points, on repère que une expression de Francesco Guicciardini qui dit en gros les batailles, les faits d'armes du royaume de Naples furent plutôt des désordres ou des témérités que des batailles. Histoire d'Italie, livre 10, chapitre 13. C'est ça qu'ils ont en tête. Hein. Donc ça, là, c'est quand même assez clair. Ils ont gagné, fortuna, les autres sont mauvais, ils sont désordonnés, et ils ont un très bon capitaine. Terminé. Hein. Rien sur la façon de combattre. Alors, Ravenne, une bataille qui se déroule le 11 avril 1512, d'un côté, donc les troupes espagnoles et pontificales de l'armée de la Sainte Ligue, donc c'est à ce moment-là Jules II, le pape, à la tête de cette armée, le vice-roi espagnol, Ramon de Cardona, et les troupes françaises, où il y a aussi le duc de Ferrare, etc., machin, et dont l'exercice espagnol et pontifical, il y a en particulier les Colonna, Fabrizio Colonna. Évidemment, vous vous dites bien déjà, si vous avez déjà lu L'Art de la guerre, si vous ne l'avez pas lu, c'est pas grave, hein, ça viendra, mais c'est quand même celui qui parle et qui raconte ce qu'il faut faire, c'est Fabrizio Colonna, hein, qu'ils ont effectivement rencontré aux Orti Auricellari. C'est pas, voilà, il n'aura évidemment pas écrit le bouquin, mais ils l'ont vraiment rencontré. Et c'est quelqu'un qui a fait toute sa carrière comme soldat avec les armées espagnoles, quoi. Donc, et de l'autre côté, les troupes françaises commandées par, évidemment, Gaston de Foix, qui va mourir dans la bataille. Non, qui va mourir dans la bataille. Alors, là, c'est important parce que dans le chapitre dernier, dans le dernier chapitre du dernier chapitre du Prince, chapitre 26, hein, Machiavel présente, vous savez, une thèse fondamentale sur qu'est-ce qu'il faut faire si on veut gagner quelque chose. Il faut avoir, il dit ça, un ordine terzo, hein, un ordre tiers. Pourquoi de l'infanterie? Pourquoi? Parce que les Suisses, ils sont bons et ils peuvent résister à la cavalerie. Les Espagnols, ils sont bons, ils ne peuvent pas résister à la cavalerie, mais ils peuvent foutre une pilée aux Suisses. Et dit-il, on en a eu un exemple. Hein, alors, vous avez toute la citation, vous la regarderez de près si ça vous intéresse. Mais... en gros, à Ravenne, hein, on a vu les infanteries espagnoles s'affronter avec les bataillons allemands qui fonctionnent avec le même ordre que les Suisses, la même ordonnance que les Suisses, et les Espagnols, avec l'agilité de leur corps et l'aide de leur rondache, c'est la rodella, hein, c'est la rodella espagnole, en italien brocchiere, hein, et en français rondache. Petit bouclier. Okay. étaient entrés sous leur pic et étaient là en sécurité à les blesser, hein, les offender, sans que les Allemands n'y puissent trouver de remède. Et s'il n'y avait pas eu la cavalerie qui les aida, ils auraient été tous consumés. C'est ça qu'il dit. Bon. Alors, c'est un truc qu'il dit là, il redit pratiquement, vous verrez la citation, on va pas rentrer dans le détail du truc, mais il redit pratiquement de la même façon dans l'art de la guerre, à propos de Ravenne et d'une bataille du royaume de Naples, et Guicciardini reprend cette description de Ravenne dans son histoire d'Italie. Alors, tout va bien, tout est normal, sauf que tout ce qu'on trouve comme compte-rendu, ça dit le contraire. Enfin, ça dit le contraire. Ça dit pas les Espagnols sont allés... Alors, vous voyez le tableau, les mecs sont avec leur pique, les autres, hop, ils passent dessous avec leur petit couteau, tchac, 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 ils leur coupent les jarrets, tout va bien. Hein, quand t'as la pique, tu risques pas... Tu peux leur mettre, essayer de lui mettre des coups de pied, mais enfin, bon, c'est pas hein, forcément très efficace. Voilà. Alors, sauf que, voilà, tous les... L'histoire du gentil seigneur de Bayard qui dit que voilà, les Espagnols se défendaient comme des gens extrêmement courageux. Il dit que Jean ne firent plus de défense que les Espagnols qui, encore n'ayant bras ni jambes entières, mordaient leurs ennemis. Bon, voilà. Mais il dit pas, il dit plutôt ils se sont fait rétamer, mais ils tenaient bon. C'est ça qu'il dit. Voilà. Fabrizio Colonna, qui a été fait prisonnier dans une lettre qu'on a de lui, nos fantassins, donc les Espagnols, hein, vainquirent tous les fantassins adverses sauf les Allemands, dalli tedeschi in fora. Et alors, évidemment, mieux encore, Machiavel, dans un autre texte qui s'appelle Portrait des choses de l'Allemagne, hein, donc c'est aussi un texte que je vous ai mis, là, qui est après le texte de l'art de la guerre, hein, dit, bah, en gros, à la journée, tout, dans le jour de la bataille de Ravenne entre les Français et les Espagnols, les Français, si les Français n'avaient pas eu les lansquenets, ils auraient perdu la bataille, parce que tandis que les deux troupes de cavaliers, les gendarmes, étaient en train de se battre. Les Espagnols avaient déjà brisé les infanteries françaises et gasconnes. Et si les Allemands, avec leur venue, leur ordinance alors, hein, leur organisation en carré, ne les avaient pas secourus, tous étaient morts et faits prisonniers. Il dit le contraire. Donc il y a un truc à comprendre. Il y a un truc à comprendre. C'est-à-dire que là, d'une certaine façon, il invente une façon de combattre pour laquelle on n'est pas sûr du tout qu'il ait d'éléments de source. Alors, il peut y avoir un élément de source, je vous le dis par souci d'exactitude, qui pourrait être la deuxième lettre, enfin la lettre du deuxième ambassadeur florentin, parce qu'il y avait deux ambassadeurs florentins qui étaient là. Hein. Et il y en a une dont on a le texte et l'autre qui a disparu. Elle n'est plus dans les archives. On ne sait pas où elle est. On sait qu'elle a été lue, en particulier par les frères de Francesco Guicciardini, puisqu'ils en parlent dans une lettre. Donc elle a existé. Alors, est-ce que lui il racontait ça? On ne sait pas. Voilà, on ne sait pas. Toujours est-il que ce qui paraît intéressant là, c'est que il s'en sert pour justifier un autre modèle, hein, qui est le modèle qu'il va développer dans l'art de la guerre, à savoir un modèle mixte entre l'armement des Suisses et l'armement des Romains. Hein, c'est-à-dire qu'il va proposer et qui est intéressant parce que il dit jamais que ça a à voir avec la façon de combattre réelle des Espagnols. Il invente simplement cet exemple qui dit, voyez, les Suisses, ça suffit pas. La façon de combattre, là, les Espagnols servent à dire, non pas, voilà comment ils combattent et c'est bien, ils servent à dire, les Suisses tels qu'ils combattent maintenant, ça ne suffit pas leur façon de faire. Voilà, ça ne suffit pas, il faut autre chose. Et ce qu'il proposera dans l'art de la guerre, c'est une infanterie avec trois éléments qui est vraiment intéressant parce que ça dit des piquets pour bloquer les chevaux, des gens avec des boucliers et des épées pour pouvoir combattre au corps à corps et des gens qui ont des armes à feu. Et des gens qui ont des armes à feu. C'est-à-dire qu'en fait, il y reproduit d'une certaine façon quelque chose alors, qui n'est pas si net que ça chez les Espagnols, mais qui a existé au moins une fois dans l'armée de Roussillon en 1497, puisque y a dans l'histoire de Zurita, il y a un passage hein, où Zurita explique que, en 97, et là, Quatrefages dit, voilà, j'ai pas trouvé l'ordonnance, il y a juste cette citation de Zurita, mais très probablement, ça, au moins dans le Roussillon, dans l'armée du Roussillon en 1497, ça se passe. Je vous le lis un petit bout. Hein, vous m'excuserez de la prononciation espagnole. Repartieronse los peones que así se llamaban este tiempo. Après, ça, infantes, hein, mais c'est encore un moment où c'est peones. Y aún mucho después en tres partes, en un tercio con lanzas, como los alemanes, que llamaron picas, y el otro tenía el nombre antiguo de escudados, y el tercero de ballesteros y espingarderos que se usaban entonces. Donc, il y a très, de façon, alors, il n'a pas eu l'ordonnance, etc., mais ouais, quelque chose se passe là qui est intéressant pour notre réflexion aujourd'hui. Et voilà. Si on passe à la partie interprétative, il y a déjà une chose intéressante, vous regarderez en détail, évidemment je ne peux pas la lire en détail, ce passage de la Relation d'Espagne de Guicciardini, ambassadeur en Espagne. Il est ambassadeur en 11-12. Et quand il a fini, il fait un texte. Il n'y a pas cette obligation. Hein. Vous savez qu'à Venise, il y a cette obligation. L'ambassadeur, il revient, il fait un rapport qu'on appelle Relazione. Là, il n'a pas cette obligation. Il l'a fait. Alors, est-ce que Machiavel l'a lu? On n'en sait rien, évidemment. Moi, je suis très persuadé qu'il l'a lu parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'il dit sur Ferdinand dans Le Prince. Sont tellement proches de ce que dit Guicciardini dans la Relation d'Espagne que je pense qu'il l'a lu, ou qu'un des frères, il est à ce moment-là très lié avec le frère aîné de Guicciardini, il s'appelle Luigi, à qui il dédie un de ses poèmes, parce qu'il faisait des poèmes à ses temps perdus. Voilà. Le gars dit une série de choses intéressantes, donc il comprend, il sait un certain nombre de choses. Hein. Alors, ce qu'il dit, c'est Ils sont inclinés aux armes peut-être plus que toute autre nation chrétienne. Et ça, c'est un truc qu'il dit tout de suite dès le diario. Quand il va là-bas, il écrit les lettres à ses frères. Il dit, putain, là-bas, on se balade, il y a que les mecs avec des épées, tout ça. Parce qu'évidemment, à Florence, c'est interdit de se balader avec des épées. Quoi. Donc ça, ils voient que les mecs armés, etc., partout. Putain, c'est des cinglés complets, les mecs, etc. Bon, voilà. Très beau passage, je trouve. Alors, il dit, ils sont de nature agile et molto destre et svelti di braccia. Hein. Vous rappelez qu'on vient de voir dans le passage sur Ravenne de Machiavel, grâce à l'agilité et vraiment l'agilité et l'habileté, quoi. Agilità e destrezza del corpo. Exactement ça, cette idée-là. Alors, après, peut-être que c'est un topos et que tout le monde dit ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Hein. En tout cas, là, il y a quelque chose qui se passe. Alors, et ils n'ont pas peur de la mort. Hein. Non curano la morte. Pour l'honneur, non curano la morte. Et ce qui est un des trucs importants. Quoi. L'infanterie, hein, et là, il revient avec les mêmes termes qui sont ceux qu'utilise Machiavel dans la description de Ravenne, la destrezza et l'agilità del corpo, hein, voilà, grande réputation de l'infanterie. Et il dit ensuite un truc effectif, c'est-à-dire dès 1503, hein, il commence à se mettre en ordonnance, à s'organiser, à s'ordonner, à la façon des Suisses. Et là, il sait, parce qu'effectivement, en 1503, il y a une ordonnance royale qui dit... Il faut se battre para pelear a pie y de la manera que se arman y pelean los suizos. Clairement. Il dit ça, et il dit dans la suite du truc, et si on n'a pas assez d'armure ici, on va aller en acheter là-bas, et on va dire à tous les endroits où il y a des fabriques de trucs, d'en fabriquer comme les mêmes armes que les Suisses. Donc, là, il le sait, il le dit, hein. De même qui sait qu'il y a l'accostamiento, qu'il y a los guardas reales, et il explique tout ça dans son texte, donc vous pourrez voir, etc. Et il dit une chose très importante, mais qui ne va jamais être reprise ni par lui, ni par Machiavel. En effet, il a beaucoup une grande armée, a militia assai, et tous sont ses sujets et viennent de ses pays. Et des pays dissous. C'est la définition de ce que Machiavel appelle les armes propres. Exactement ça. Et à aucun moment, on va trouver ça dans les textes de Machiavel. Hein? Alors, très vite, en guise de conclusion, pour pas, je vous donne la série des points interprétatifs. Hein? Mais voilà, je vais pas les argumenter assez, mais voilà. Donc, il y a cette question des armes propres. C'est-à-dire que les armes propres, c'est celle de tes sujets ou, pour une république, celle de tes citoyens. Voilà. Voilà. Très clairement, Machiavel n'intègre pas ce qu'il peut savoir, ne serait-ce que par son ami Guichardin, il n'intègre pas le fait que l'armée espagnole est une armée du peuple. Voilà. Et qu'il y a l'armement du peuple en Espagne avec les ordonnances de 95 et 96. Hein, après, on prend le 12e seulement, mais enfin, bon, il y a les textes là, que publie Quatrefages, ils sont impressionnants, quoi, je veux dire, ouais, de ce point de vue-là. Et lui, il a compris ça avec cette phrase très brève, hein, en effet, etc. Un milice, c'est à 5, et tout qui est sous l'idée des pays, ils soient. Et ça ne revient jamais. Sans doute, pourquoi ? Parce que très probablement, ils voient que quand ils sont en Italie, ils ne sont pas seulement eux. Ils ne sont pas seulement les Espagnols. Il y a des Italiens, il y a beaucoup d'Italiens. Et précisément, il y a les Colonna tout le temps. À un moment donné, les Orsini, mais les Colonna tout le temps. Il y a à certains moments, et en particulier à cette bataille de la Cerignola, il y a des Allemands qui ont été envoyés par l'empereur. C'est-à-dire qu'en face, il a un truc que lui ne sait pas trop comment nommer, hein, mais si vous regardez cette lettre de août 1513, dont j'ai reproduit une partie, il appelle ça, des armées collettizi, eserciti collettizi, hein, fait de briques et de broches. Hein, voilà. Et il dit très clairement là, les Espagnols, voilà, ils sont comme ça, quoi, ils sont... comme les Italiens, comme les Espagnols, ils ont ces armées comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'idée qu'il y a un embryon là de quelque chose qu'on peut nommer une armée impériale. Et ça, il ne le voit pas. Et il me semble que c'est ça qu'il ne voit pas dans la façon de combattre des Espagnols et qui ne voit pas chez Gonzalve. Donc du coup, quand Gonzalve apparaît, c'est un exemple de l'ingratitude des princes. Alors, ça apparaît dans deux endroits. Un passage dans les discours, livre 1, chapitre 19, et une des poésies là, qui s'appelle « Sur l'ingratitude hein ». Consalvo alle parti di Puglia de relite Consalvo e al suo re sospetto vive in premio delle galliche sconfitte. Il a battu les Français et le prix qu'il a eu, c'est le soupçon de son roi. Autre exemple, discours 2.19, c'est deux chapitres, pardon, 2.29 et 2.30, c'est deux chapitres sur l'ingratitude. La question, c'est est-ce que les princes sont plus ingrats que les peuples? Et la réponse, c'est ouais, les princes sont plus ingrats que les peuples. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, voilà, il est venu à Naples, hein, pour prix des victoires qu'il a remportées. Hein, Ferdinand est venu à Naples, lui a enlevé le commandement des troupes. Après, il lui a pris les forteresses. Et après, il l'a emmené avec lui, il l'a emmené en seco in Spagna, où peu de temps après, inonorato, sans honneur, il mourut. Voilà. Un exemple de l'ingratitude des princes. Mais après Ravenne, ce qui se passe, et nous, les gens qui lisent les textes italiens le savent très bien, parce que on a à ce moment-là notre ami Guicciardini qui est ambassadeur là-bas et qui dit, mais ils vont envoyer le grand capitaine parce qu'ils croient qu'ils s'en prennent plein les dents, quoi. Et donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Et le grand capitaine, il lève les troupes et c'est prêt, sauf que les Français ont gagné la bataille, mais ils ont perdu la campagne, qui est un autre point important. Et ils ont perdu complètement la campagne, et donc il n'y a pas besoin d'envoyer. Mais à ce moment-là, c'est à qui on pense, et tout le monde le pense, et le pape demande que ça soit lui, et le roi Ferdinand est prêt à l'envoyer, et Guichardin va le voir chez lui, le grand capitaine, etc., machin, et on a les lettres et tout ça, et c'est prêt, quoi. Et c'est, donc c'est pas du tout inonorato, c'est quoi la politique impériale? C'est ça la question. Et ça, mais évidemment, je veux dire, il n'y a pas les outils conceptuels qui permettent de comprendre cette nouveauté-là. Et de fait, ils comprennent ni pour la façon de combattre, ni pour la façon de dessiner la figure de Gonzalve. Hein. Alors, c'est en gros le point central. Hein. Enfin, c'est deux points centraux. La question des armes propres, c'est-à-dire qu'ils pensent que c'est un esercito collettizio fait de briques et de brocs, alors que c'est un embryon d'armée impériale. Hein. Il pense que Gonzalve, son modèle, lui, c'est quelqu'un qui va être capable de prendre un État. Lui, il ne prend pas un État, il prend un État pour que l'Empire se développe. Et donc, il a l'hypothèse que, voilà, donc du coup, il va garder César Borgia, qui est un nul. Non, mais militairement, ça ne fait pas photo entre le grand capitaine et César Borgia. C'est le grand capitaine, il a pris la Romagne, l'autre il a pris le royaume de Naples, ça fait quand même deux. Bon, Machiavel, c'est quelqu'un qui reste persuadé à cause de ce que pensent en gros les Italiens à ce moment-là et de ce qu'il lit chez les Romains, que le moment décisif de la guerre, c'est la bataille. Et c'est pas ça que font les Espagnols, parce qu'il y a aussi la Reconquista, c'est pas fait comme ça. C'est-à-dire, ça s'est pas fait comme ça. C'est-à-dire, bon, là-dessus, sur la Reconquista, je reste prudent parce que mes connaissances sont assez faibles. Mais en tout cas, sur ce qu'ils font dans le sud de l'Italie, c'est clair. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on voit très bien que c'est des campagnes, c'est de la guerre prolongée, c'est les autres sont plus forts, on se retire, on les fait avancer, machin, ils se fatiguent et paf, on leur fout sur la gueule, terminé. Non, mais Galigliano, c'est ça, ça dure des mois. Et je veux dire, ils sont aussi dans la boue, dans le froid, etc., avec les Français, sauf qu'à la fin, ils font un autre pont, ils passent, le Bayard, il est toujours sur son pont à bloquer, etc., depuis 3 mois, mais eux, ils passent de l'autre côté, quoi. Voilà. Et là, terminé, fini. Mais c'est la guerre prolongée qui gagne, c'est pas la bataille. Et l'autre, après, il vient dire, c'est l'hiver qui les a battus. Mais non, c'est une autre tactique militaire. Et ils le voient pas du tout. Je termine juste sur un point espagnol. Hein, dans la traduction, adaptation de de l'art de la guerre par Diego de Salazar, donc publié pour la première fois en 1536. Moi, je l'ai lu dans l'édition plus tardive de la fin du siècle, mais bon, je ne crois pas qu'il y ait de différence de texte. C'est une traduction, mais il y a un point complètement décisif, c'est que Machiavel dit il faut qu'il y ait, et on va les appeler à la romaine, des gens qui balancent des trucs comme les frondeurs, etc. Et on va les appeler les vélites. Chaque fois qu'il y a vélite dans le texte de Machiavel, il y a arcabuceros dans le texte. C'est le seul, pratiquement, c'est la seule différence qu'il y a. Hein, à part qu'évidemment le début ne peut pas être complètement le même puisque c'est le grand capitaine qui parle avec un duc, etc. Mais la seule vraie différence, après, bon, sous réserve d'inventaire d'autres choses, mais j'ai regardé tous les endroits où Machiavel parle des Espagnols, etc. C'est une traduction mot à mot, il n'y a pas de truc, non on a fait comme ça, etc. Mais là il y a un point décisif, et ça c'est un point décisif. Et alors le truc que j'ai pas résolu, c'est le fait qu'en gros il présente un modèle militaire, hein, ce modèle militaire avec les trois parties, la pique, les escuderos avec l'épée et les esmigas, et puis des gens qui ont des scopiettes. Quel modèle espagnol. Et il le présente comme en gros une invention à lui appuyée sur... un truc que font les Suisses, parce que, dit-il, c'est les Suisses qui ont inventé l'artillerie. Alors, c'est vrai que Archibuse, c'est à l'origine, c'est un mot allemand. Quoi. Bon, mais enfin, bon. Voilà. La Hackebutte. Voilà. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas de conclusion, c'est juste comme ça. Voilà. Merci beaucoup.